Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Canal B sur le 94 FM en Ille-et-Vilaine pour une émission spéciale consacrée à une journée de mobilisation tout aussi spéciale.
Une émission spéciale sur Canal B avec Radio Laser.
Ce sont elles qui font battre vos territoires. Elles représentent 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés. Vous les retrouvez en septembre lors du traditionnel forum des associations. Elles agissent dans les domaines du sport, de la musique, de la solidarité, de l'éducation populaire. Je veux bien sûr parler des associations, elles sont partout. Mais depuis plusieurs années, c'est la douche froide. Baisse des financements, complexité administrative, épuisement des salariés et parfois des bénévoles. Les associations subissent de plein fouet les coupes budgétaires de l'État, leurs conditions de travail dégringolent et avec la possibilité de maintenir la qualité de leurs services. Il y a quelques jours, le planning familial d'Ille-et-Vilaine écrivait « Jusqu'alors, nous avions toujours de l'espoir, mais le planning familial 35 est en grand danger, c'est inédit en 60 ans d'histoire ». À Rennes même, en début de semaine, nous apprenions que l'association ISKIS, le centre de soutien aux personnes LGBTI+, était amputée de 40 000 euros d'aide au fonctionnement par une décision de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le centre avait pourtant bénéficié dès 2024 du fonds d'ILCRA, du nom de la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT, fonds budgété théoriquement jusqu'à 2026. Ce week-end, donc, c'est toutes ensemble que les associations feront entendre leur voix en se mobilisant samedi 11 octobre sous le mot d'ordre « Ça ne tient plus ». Nous en parlerons dans un instant et pendant une petite heure avec nos invités. Alors restez avec nous sur le 94 FM. C'est donc ce samedi 11 octobre qu'a choisi le mouvement associatif pour organiser une mobilisation sans précédent afin d'alerter les autorités sur la situation des associations françaises. Le mouvement associatif, c'est un organe qui regroupe 700 000 associations au niveau national, soit plus de la moitié des associations en France. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir en studio le mouvement associatif de Bretagne, ainsi que des représentants et représentantes de différents secteurs de l'associatif, mais aussi des associations. Autour de la table avec nous aujourd'hui, Thierry Abalea, vous êtes le président du mouvement associatif de Bretagne, structure qui représente la vie associative et défend ses intérêts au niveau régional. Bonjour.
Bonjour.
Joël Goron, vous êtes président de l'URIOPS, association qui tente de fédérer et représenter les structures non lucratives de l'action sanitaire et sociale. Bonjour.
Exactement, bonjour.
Benoît Bronic, coordinateur de France Nature Environnement. Bonjour à vous.
Bonjour.
Autour de cette table également, Éloi Cordier, coordinateur du CRAJEP.
Bonjour.
Et le CRAJEP qui réunit plus de 70 mouvements nationaux de jeunesse et d'éducation populaire. On a aussi Bluen Holnet, vous êtes du planning familial d'Ille-et-Vilaine, coprésidente si je ne me trompe pas.
Bonjour.
On le rappelle, le planning familial, une association défendant les droits et la santé sexuelle. Et pour finir, Daniel Delavaux, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonjour.
Bonjour.
Avec moi à la technique aujourd'hui, Morgane de Canal B et Simon de Radio Laser à la co-animation. Car oui, cette émission sera diffusée dans le réseau des radios locales et associatives de Bretagne via la Corlab. Alors, bonjour à tous. Revenons d'abord rapidement sur la mobilisation qui a lieu ce samedi 11 octobre dans toute la France. Son mot d'ordre, c'est « ça ne tient plus ». Elle a pour but d'exiger des pouvoirs publics qu'il n'y ait plus aucune baisse du financement des associations. On va revenir sur cette situation. Mais pour commencer, vous avez donné jeudi le 9 octobre une conférence de presse au 360, anciennement la Maison des associations à Rennes. Est-ce que vous avez le sentiment que votre parole va être entendue ? Peut-être Thierry pour commencer.
Oui, alors juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, journée spéciale, effectivement journée spéciale, parce que c'est pas l'habitude du monde associatif et des bénévoles associatifs de Bretagne, mais aussi de partout en France, hein, 650 bénévoles, 700 000 même bénévoles en Bretagne. On n'a pas l'habitude d'interpeller comme ça sur l'espace public et la voie publique les autorités pour leur dire ça ne tient plus. C'est que vraiment ça ne tient plus et que ça va et que ça va et que ça va très 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 mal pour toutes les associations dans tous les secteurs confondus.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint ?
Oui, parce que la situation financière des associations, elle est compliquée depuis des années, pour ne pas dire depuis toujours. C'est dans la nature même du monde associatif que de faire avec des bouts de ficelle, des bouts de scotch, du rafistolage, de faire avec pas grand-chose et de faire parfois des merveilles, pour pas dire des miracles. Et depuis quelques mois, quelques années, ces difficultés-là s'accélèrent. Alors, on a connu le Covid, comme tout le monde, et ça a été redoutable pour le monde associatif. On a connu une crise inflationniste, et maintenant on connaît des crises politiques et budgétaires, avec une année 2025 qui a été catastrophique pour le monde associatif, d'où la revendication, effectivement, que vous avez rappelée, qui est qu'en 2026, plus un centime de moins dans les budgets associatifs, plus un centime d'argent public en moins dans les subventions versées aux associations.
Effectivement, la part des subventions publiques dans les ressources des assos, elle a chuté de 41% entre 2005 et 2020. Simon, tu avais quelque chose pour rebondir là-dessus ?
Vous avez insisté au début de votre intervention sur le fait que c'était une première pour le monde associatif. Alors, une première dans quel sens ? Un mouvement social du monde associatif, c'est une première ?
Oui, l'idée, alors oui, c'est une première, c'est pour ça aussi qu'on, d'abord on l'a fait dans l'urgence, on a décidé cette journée du 11 octobre début septembre, vous voyez, en un mois et demi, c'est plutôt pas mal quand on voit le nombre d'événements, 300 événements en France, une trentaine recensés en Bretagne, tout ça en un mois et demi, et c'est une première parce que on n'est pas, nous, des habitués ni de la banderole, ni de la manifestation, ni du défilé, on est des habitués de l'action au quotidien, d'intervenir dans nos clubs sportifs, dans nos associations culturelles, à bas bruit, en toute modestie, en toute humilité. Et là, on a décidé effectivement qu'il fallait qu'on sorte du bois et qu'on dise d'abord notre colère, parce que ça ne va plus et c'est grave ce qui se passe dans ce pays.
Je vois que Bluen Holnet hoche un peu de la tête, ou en tout cas semble peut-être en désaccord sur « on n'est pas des habitués de la banderole ». Pour que nos auditeurs et auditrices puissent imaginer ce que c'est que travailler en association au quotidien en 2025 en France, on peut prendre une petite étude de l'Observatoire régional de la vie associative des Hauts-de-France qui montre que 31% des associations employeuses disposent d'une trésorerie inférieure à 3 mois. Voilà, vous pouvez, chers auditeurs et auditrices, essayer de reporter ça sur votre propre situation. Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous vous retrouvez au planning familial d'Ille-et-Vilaine aujourd'hui ?
Oui, bah, je hoche la tête parce qu'au planning familial, je pense que ça montre aussi la pluralité des associations. C'est vrai que les associations sportives, les associations culturelles sont peut-être moins habituées à se mobiliser. Nous, on est plutôt habitués à se mobiliser, mais sur des grands événements féministes, donc comme le 8 mars, journée des droits des femmes et des minorités de genre, ou le 25 novembre, journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais là, c'est vrai que c'est une des premières fois en 60 ans, donc ça fait 60 ans que le planning familial 35 existe, et c'est une des premières fois qu'on est en grosse difficulté financière, qui pour l'instant, vous parliez de trésorerie, et donc là, actuellement, nous, le planning familial 35 pourrait fermer en mars 2027, si on n'agit pas. Donc pour expliquer un peu, c'est une des raisons, mais il y a d'autres associations qui ont d'autres difficultés. Nous, on ne fait pas forcément face à des coupes budgétaires, comme on peut souvent entendre, mais plutôt à la mise en place de la prime Ségur. Donc on a fait partie des oubliés du Ségur, donc une prime qui a été mise en place en août 2024.
Suite au
Covid, et qui n'a pas été compensée par l'État ou une toute petite partie. Donc à titre d'exemple, au planning familial 35, ça représente 60 000 euros, donc deux équivalents temps plein, donc deux salariés sur 27 salariés qui ne sont pas pris en charge. Donc actuellement, on espérait en fait que la prise en charge finisse par arriver par l'État, mais elle n'arrive pas. Et donc c'est pour cette raison qu'on se retrouve en difficulté financière. Et de manière générale, mais comme beaucoup d'associations, on fait face à une austérité budgétaire nationale. Et donc même si on n'a pas des coupes budgétaires, et même plutôt en Ille-et-Vilaine, un soutien important des institutions locales, on a de moins en moins de nouveaux projets. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à développer des nouvelles choses qui nous permettraient de répondre à notre déficit.
Et à la demande dans ces civilisations. Voilà. On l'imagine bien. Joël Goron, vous êtes président de l'URIOPS. Vous représentez des structures associatives qui sont spécialisées dans le médico-social.
Oui, effectivement.
Il y a certaines associations qui opèrent des missions de service public, j'imagine, au sein de vos associations. Pour vous, quelle est la situation pour les associations que vous représentez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent plus faire ou alors ne plus les faire dans les mêmes conditions ?
Plusieurs points. Le premier, c'est déjà un contexte de difficultés financières et des financements qui ne sont pas toujours à la hauteur. Je ne voudrais pas limiter le problème à ce seul aspect des choses. Je considère qu'aujourd'hui, nous avons une absence de projet politique qui nous met en difficulté, considérant que dans plusieurs registres, et le nôtre c'est celui des personnes vulnérables, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, des personnes en situation d'exclusion. Si je prends comme tout à l'heure, l'exemple des personnes âgées. On nous promet depuis au moins 2017 une loi grand âge qui ne vient pas. Et on voit bien qu'on a besoin de repenser le modèle du côté de l'accompagnement, à le faire évoluer constamment, ce que les associations essayent de faire en voulant être aussi co-constructeurs des politiques publiques et non pas uniquement des structures financées. Mais on voit bien qu'on a besoin aussi de perspectives. Or, aujourd'hui, la situation, et plus particulièrement depuis le début de la semaine, nous inquiète sur ces perspectives et la reconnaissance du secteur associatif dans l'accompagnement des personnes vulnérables.
Vous évoquez ce qui n'est pas fait, mais il y a ce qui est fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de tuer un modèle social ?
Le terme est un peu fort et je veux croire que non. Je pense que les actions que nous menons ont complètement, bien évidemment, l'objet inverse. Simplement, je crois qu'il y a un besoin de reconnaissance et si nous devions balayer devant notre porte, je crois qu'il est important qu'on explique ce que nous faisons et quelle est la réalité de l'utilité sociale qui est la nôtre. On croit connaître le secteur associatif, en fait, on ne le connaît pas. D'où le type d'action impulsé par le mouvement associatif.
Et on va y revenir un peu plus en détail juste après. Avant, j'aimerais donner la parole à Éloi Cordier. Vous êtes coordinateur du CRAJEP. On a parlé d'argent, de financement, mais ce n'est pas tout. Il y a la mobilisation « Ça ne tient plus », donc qui est organisée ce samedi. Veut aussi témoigner d'une forme d'épuisement des associations, que ce soit de la part des salariés, mais aussi des bénévoles. De votre côté, Éloi Cordier, quelles sont les conséquences pour vous que vous voyez au quotidien, les conséquences humaines et sociales aussi de la situation actuelle, si vous prenez l'exemple des associations que vous représentez, donc plutôt mouvement de jeunesse et éducation populaire?
Oui, alors au CRAJEP Bretagne, c'est 20 mouvements, associations d'éducation de jeunesse et d'éducation populaire. Et en fait, on se rend compte, à travers les difficultés qu'on traverse, qu'en fait, c'est un modèle en fait de société qui est un petit peu remis en cause. Parce que l'éducation populaire, en fait, elle est présente partout dans le quotidien des gens. Ce sont des activités scolaires, extrascolaires, périscolaires, des MJC. C'est également des centres sociaux, des formations, des clubs de sport. Donc en fait, tout ce qui touche en fait à la vie d'une commune, à la vie de village, de ville, de quartier. Et donc en fait, si tout ça tombe, en fait, c'est un vrai modèle de société en fait qui met les habitants en difficulté. Et le paradoxe, c'est que on a de plus en plus recours aux associations de jeunesse, d'éducation populaire, au tissu associatif en général, et pourtant les moyens diminuent. Et donc on se retrouve à un certain paradoxe, et comme le disait Thierry juste avant, on ne peut pas sans cesse faire plus avec moins. Et au niveau des associations, ce sont des bénévoles qui se découragent, et aussi des licenciements, et surtout amener les associations à quelque chose de dramatique qui est de devoir en fait trier les urgences sociales et donc priver les habitants et les habitantes de certains services qui ne sont plus assurés par les collectivités et l'État.
Pour vous, Benoît Brunic de France Nature Environnement, comment on se sent aujourd'hui quand on est coordinateur d'une asso qui vise à lutter pour la défense de l'environnement? C'est une question un peu large, mais pour vous donner un petit peu l'attitude aussi pour répondre là-dessus.
Comment on se sent? Mais on se sent toujours déterminé, parce que c'est la force du mouvement de France Nature Environnement Bretagne. On est déterminé à pouvoir toujours être là en alerte, parce que les voyants sont au rouge aujourd'hui sur l'état de la biodiversité et de la crise climatique. Et donc on est là, nos bénévoles, accompagnés par des forces vives salariées aussi, sont présentes sur le territoire, sur le terrain, au quotidien. Mais en effet, avec cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous, sur la fragilité du modèle économique de nos associations. Alors en effet, c'est vrai que les aspects financiers sont un bon levier aujourd'hui pour parfois discréditer et fragiliser nos associations sous couvert de vouloir éventuellement nous écarter, parce qu'on joue aussi en tant qu'association militante un rôle de contre-pouvoir et ça ne plaît pas toujours. Et en effet, régulièrement, on a des propositions éventuellement de loi qui tendent à vouloir supprimer des avantages fiscaux, par exemple à des associations, parce qu'elles dérangent, ou également tout simplement de dire finalement, si on s'était mis d'accord sur une enveloppe budgétaire, par exemple sur une histoire de par exemple, il y a des financements du Fonds vert, qui sont des financements publics. On se met d'accord sur un coût journée, et puis au moment du paiement, finalement, la règle du jeu change en cours de route, et elle passe de 500 à 330 euros. Voilà, c'est tout ce genre de difficultés qui font qu'aujourd'hui, nos associations sont, disent que ça ne tient plus, parce qu'en effet, il y a cette manque de visibilité, de stabilité du modèle économique de nos associations, et sous couvert, en fait, aussi, surtout, parfois, de vouloir nous écarter de notre action militante qui est avant toute chose ici pour défendre l'intérêt général.
Ça résonne un petit peu avec ce que nous disait Joël Goron tout à l'heure sur le fait qu'il manquait peut-être des perspectives communes et politiques à la situation des associations aujourd'hui. Pour finir peut-être sur le constat, Thierry Abalea, le mouvement associatif breton représente près de 80 000 associations dans la région, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être des auditeurs et des auditrices de Canal B, de Radio Laser, qui ne connaissent pas bien le monde associatif et qui se disent, eh ben oui, effectivement, avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'associations en France, il est peut-être normal qu'aujourd'hui l'État n'ait plus les moyens de les financer. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Parce que j'ai l'impression que dans votre tribune, vous portez aussi un message qui est qu'au contraire, assécher les subventions des associations, c'est aussi aggraver les crises en cours.
Oui, comment dire ça? Dire ce que vous dites ou qui pourrait se dire est une vaste erreur parce que on sait très bien que une activité qui est portée par une association, donc par des citoyens qui décident de s'organiser, d'abord c'est fait d'une manière désintéressée, c'est la loi qui le dit, et c'est aussi à caractère non lucratif, c'est-à-dire que l'association n'a pas vocation à se doter de marge financière sur les activités qu'elle produit, et quand elle fait des excédents, cette association, elle les réinjecte nécessairement dans son objet social et elle ne va pas servir des intérêts privés d'actionnaires, de sociétaires, etc. Donc, de fait, chaque argent qui est donné à une activité associative bénéficie à l'activité et donc aux bénéficiaires de l'activité. Et on sait qu'un certain nombre d'activités portées par le monde associatif coûtent moins cher à la collectivité que quand elle le mène elle-même ou quand elle le confie encore pire au système commercial et marchand. Je ne vais pas parler à la place de mon collègue du médico-social, mais on a tous en tête, et vos auditeurs aussi, les scandales du troisième âge, les scandales de la petite enfance, confiés à des prestataires privés marchands, et on voit ce que ça donne en termes de qualité. Le monde associatif, comme le service public d'ailleurs, sont des gages de qualité, et des gages de qualité à petit prix, parce que le bénévolat emporte une large par des coûts de prestations. Que serait le sport dans ce pays auprès des plus vulnérables, auprès de nos enfants, auprès des adultes qui pratiquent le sport, sans les entraîneurs bénévoles dans les clubs sportifs? Ça ne serait pas. Que serait le monde de la culture? Comment un festival, aussi important soit-il en Bretagne, pourrait vivre sans l'engagement des habitants du territoire, donc des bénévoles, pour que ce festival existe? Et ça, c'est vrai aussi pour le tout petit festival dans le centre-Bretagne.
Et vous aviez une formule, il me semble, pour le résumé, c'est qu'un euro investi dans les associations, c'est 5 euros de richesse produite au niveau national, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et j'ai un autre chiffre dans le même ordre d'idée, encore pire, dans le monde du sport. Un euro génère 13 euros d'économie pour la collectivité. Un euro versé au sport, aux associations sportives, c'est 13 euros. Si on additionne effectivement ce que la richesse que produit une association par la qualité de son activité, si on additionne à ça les coûts évités, vous savez, hein, les milliards que coûte aujourd'hui la sédentarité, vous savez, les milliards que coûte aujourd'hui l'isolement des personnes âgées enfermées chez eux, tous ces coûts évités peuvent être évités par un soutien au monde associatif qui œuvre dans ces champs d'activité.
On parle du mouvement associatif et de sa mobilisation nationale qui aura lieu samedi 11 octobre. Et vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs et auditrices, mais Canal B est aussi une association. Comme toutes les associations, nos portes sont ouvertes et nous accueillons des bénévoles toute l'année. Et ce qu'on sait bien faire à Canal B, ce sont des sélections musicales. Alors on écoute tout de suite un morceau de musique.
When, 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 when.
Vous écoutiez à l'instant Temps mort d'Hyperculte sur Canal B. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Canal B sur le 94 FM, mais aussi sur Radio Laser et dans le réseau des radios associatives et locales de Bretagne. Nous parlons aujourd'hui de la mobilisation « Ça ne tient plus » organisée ce samedi 11 octobre partout en France par le mouvement associatif pour revendiquer plus de moyens financiers, mais aussi plus de reconnaissance pour l'action et le travail des associations partout en France. Pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, nous sommes en compagnie de Thierry Abaléa, président du mouvement associatif de Bretagne, Joël Gouron, qui est président de l'URIOPS, Benoît Bronic, coordinateur de France Nature Environnement, Éloi Cordier, coordinateur du CRAGEP, il y a beaucoup de monde autour de la table, Daniel Delaveau, qui est président de la Fédération des acteurs de la solidarité, et Bluène Aulnet, coprésidente du planning familial d'Ille-et-Vilaine. Alors, on a parlé en première partie de la baisse continue des financements publics qui sont alloués aux associations, malgré une utilité sociale qui est de premier plan, et vous l'avez rappelé aussi, les besoins sont en hausse sur différentes thématiques sociétales et sociales. Ce qui m'interpelle, c'est que parmi nos invités aujourd'hui, on a certains représentants de secteurs associatifs entiers, qui sont normalement les acteurs, les interlocuteurs et interlocutrices privilégiés des autorités politiques, que ce soit au niveau régional, local ou plus national. J'ai l'impression que cette année, dans votre mobilisation, vous êtes rejoint derrière le mot d'ordre, ça ne tient plus, et aussi que toutes les autres formes d'interpellation n'ont pas abouti jusqu'à maintenant. Est-ce que, Daniel Delaveau, vous pourriez revenir sur les formes d'interpellation qui ont été les vôtres jusqu'à maintenant et pourquoi ça n'a pas abouti ?
Nos associations ou nos fédérations ont l'habitude d'interpeller et de dialoguer avec les pouvoirs publics, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, la région, les départements, les communes et communautés. Nous sommes chacun dans notre couloir de nage, si j'ose dire. La grande nouveauté aujourd'hui avec ce mouvement du 11 octobre, c'est que, après avoir fait le constat, parce qu'on se connaît bien les uns et les autres, mais nous sommes extrêmement divers entre le monde sportif et le monde de la solidarité et de la précarité et de l'exclusion que la Fédération des acteurs de la solidarité représente, par exemple, évidemment, on se voit pas tous les jours. Et cette mobilisation du 11, elle est nouvelle parce que nous nous sommes tous dit, il faut nous partager, nous avons les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, il faut qu'on fasse entendre ensemble notre voix, qu'on sorte de chacun de nos spécificités, parce que les problèmes que nous rencontrons, ils sont de nature globale. Et quand Thierry parlait tout à l'heure de l'investissement, il faut comprendre, il faut que vos auditeurs comprennent bien que investir dans le social, je vais utiliser volontairement un terme qui va peut-être choquer, mais l'investissement social, c'est rentable et c'est efficace. Et tu évoquais les coûts évités, et il faut absolument que l'on sorte d'une vision court-termiste. Et puis, ça veut dire que nos associations ont besoin de visibilité, justement. On peut pas ne pas savoir dans 3 mois ou dans 1 an ce qui va se passer sur le plan financier. On négocie souvent dans nos associations, dans notre secteur social et médico-social, ce qu'on appelle des CEPOM, des contrats de projets d'objectifs et de moyens pluriannuels. Alors, on discute beaucoup des objectifs, mais les moyens, nos interlocuteurs en face me disent les moyens, on n'en sait rien, on ne sait pas. Donc, c'est plus des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
Et donc, ces formes, justement, là, dont vous nous parlez de négociation, c'est des choses qui ne fonctionnent plus pour vous aujourd'hui. C'est pour ça que vous vous mobilisez collectivement ?
Oui, elle fonctionne. Le dialogue est maintenu, évidemment, mais il faut que les politiques publiques répondent aux besoins. Or, les besoins augmentent. Si je prends les besoins dans le secteur social qui est le nôtre, on voit bien que la précarité augmente, le taux de pauvreté augmente, le nombre de personnes à la rue augmente, y compris d'ailleurs les enfants à la rue. On voit des campements dans nos villes, pas simplement à Rennes, et il faut absolument que on puisse... Il y a eu des efforts de fait, il faut être honnête et objectif. Il y a eu des places d'hébergement d'urgence de créer, mais elles sont... totalement insuffisante par rapport aux besoins. Et c'est quand je parle de ces besoins-là, eh bien, nous sommes tous confrontés à ces évolutions et aux nécessités de donner, non pas de freiner les associations, mais au contraire de les aider à se développer.
La question, elle évoquait le rapport au pouvoir public. Et nous, en tant que citoyens, je parle donc de tout le reste de la population, on n'a pas envie de regarder passer le train et de se dire, bah voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le monde associatif à temps. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien si on est un citoyen, et même si on ne fait pas forcément partie d'une asso, pour soutenir justement tout ce que représente le monde associatif? Et je vois que vous proposez de passer le micro à quelqu'un d'autre.
Je
ne
veux pas monopoliser la parole, mais je crois que chacun peut s'investir. Chacun peut s'investir. Les chiffres ont été donnés du nombre de bénévoles qui existent et qui font vivre nos associations. Et cette journée du 11, elle a aussi comme objectif d'aller à la rencontre des habitants, des citoyens, sous des formes totalement différentes. Ça peut être un fest-noz à tel endroit, ça peut être une rencontre sur un marché tel autre, ça peut être de multiples formes, pour aussi sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens à cette prise de conscience. Ils le savent bien que s'il n'y avait pas les associations, imaginez ce que serait l'état du pays si les associations ne fonctionnaient pas.
Et on reparlera plus précisément en fin d'émission de ce que vous pourrez faire samedi 11 octobre en Bretagne et en Ille-et-Vilaine pour aller à la rencontre justement des associations. En attendant, j'aimerais poser une question au coordinateur de France Nature Environnement, Benoît Brunic. Quelle est la nature aujourd'hui, la teneur du dialogue que vous avez avec les autorités politiques, locales, communales, régionales avec lesquelles vous êtes en contact ?
Alors ça fait partie de l'ADN de notre mouvement France Nature Environnement, c'est d'être toujours dans la concertation. On est toujours dans le dialogue et on a la chance, je crois qu'on peut le dire, on a la chance en Bretagne d'avoir une écoute. On est reçu notamment par les autorités, moi je parle au niveau régional puisqu'on est une fédération régionale et nos interlocuteurs sont essentiellement le Conseil Régional de Bretagne. Et on a une écoute du Conseil Régional et un soutien, et là-dessus c'est indéniable et on le salue. La chose c'est que le relationnel aux politiques il se passe pas uniquement au niveau régional. Et la région dépend aussi d'ailleurs des décisions nationales. Et c'est là où la complexité interfère puisqu'en fait aujourd'hui, les politiques nationales, tout le monde est convaincu qu'il faut agir contre le réchauffement climatique, contre l'effondrement de la biodiversité. Et pour autant, les associations qui militent depuis plus de 60 ans en Bretagne sur ces questions-là, aujourd'hui sont discréditées par certaines politiques et certaines idéologies qui font que lorsqu'on est association militante et qu'on a des discours et des actions qui vont dans le sens de la protection de l'environnement et de la nature, mais qui vont à l'encontre de certains lobbies puissants, eh bien, on essaye de nous faire taire. Et il y a plein de d'illustrations qui peuvent être faites.
Peut-être que vous pouvez nous en donner quelques-unes.
Le contrat d'engagement républicain, clairement, est aujourd'hui un levier que les politiques peuvent utiliser pour faire taire une association qui pourrait déranger sous prétexte que, sous couvert d'une action qui serait pas forcément la bienvenue de la part d'un élu politique, va être dénoncé en disant ça peut provoquer un trouble à l'ordre public. On se dit qu'ils ne respectent plus l'engagement républicain et on va leur supprimer leurs subventions.
Pour rappel pour nos auditeurs et auditrices, le contrat républicain, si je ne me trompe pas, c'est un contrat que les associations ont été obligées de signer depuis, alors je ne sais pas quelle année, mais pour respecter certaines valeurs républicaines. Et c'est précisément là, depuis 2-3 ans, si j'en crois les signes que nos invités font sur le plateau. Et c'est du coup sous ce prétexte-là que pourraient être discréditées certaines associations, sous certains prétextes, si des actions menées par des associations sur le territoire peuvent mener à des troubles de l'ordre public. En fait, c'est un texte qui peut être un peu, j'ai envie de dire, torturé.
Qui peut être interprété,
exactement,
on va dire, à la discrétion. Alors souvent, c'est un des textes de l'État, donc c'est à discrétion souvent du préfet. Pour autant, en fait, ce texte-là, aujourd'hui, il est fait, en effet, alors moi je parle pour le secteur environnemental, mais il faut savoir que toutes les associations qui aujourd'hui prétendent à une subvention publique sont tenues de s'engager à respecter ce contrat d'engagement républicain. Et encore une fois, nos associations, loi 1901, on défend les valeurs républicaines de démocratie et de l'intérêt général. Ça, c'est pas du tout la question qui est remise en question par rapport à ce contrat d'engagement républicain. C'est l'interprétation et la façon dont il est instrumentalisé aujourd'hui par certains politiques qui est dangereuse et qui met en difficulté nos associations.
Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous aussi, peut-être au planning familial ou au CRAJEP, ce manque, on va dire, de légitimité ou de confiance que les autorités, plutôt au niveau national, vous accordent ? Peut-être Éloi Cordier ?
Oui, je rejoins ce qu'a dit Benoît. Effectivement, en Bretagne, on a la chance d'avoir une écoute et peut-être d'être mieux lotis que certaines autres régions voisines, mais on va pas échapper justement à un processus pour les associations de marchandisation par appel à projet. Et donc, en fait, on va se retrouver, ce qui n'était pas le cas avant, on est passé d'une politique qui était ascendante où les associations pouvaient construire leur objet associatif à une sorte de politique qui nous positionne les associations en prestataire vis-à-vis des services de l'État et des collectivités. Donc on va se retrouver avec, pour beaucoup d'associations, dans un schéma concurrentiel qui est de plus en plus aussi insupportable. On est mis en concurrence, il va y avoir beaucoup de lourdeur associative et on va perdre un petit peu aussi un peu de sens à tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des bénévoles et des salariés qui vont perdre du temps de face-à-face pédagogique, face-à-face public, au détriment de lourdeur administrative, en fait, pour mener à bien leur projet action. Et ça, c'est un réel frein. Et pourtant, au CRAJEP, comme d'autres associations, par notre expertise, nos champs d'activité, nous sommes totalement légitimes pour prendre part à la construction des politiques publiques et d'être, dès le commencement du processus partenarial, pour avoir des politiques publiques assez efficaces.
Peut-être rapidement sur ce sujet, Bleu Anolnet, du planning familial.
Oui, peut-être pour reprendre un peu sur la question du contrat d'engagement républicain, nous, je suis complètement d'accord que en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, on a plutôt de la chance au niveau du soutien des collectivités locales. Ce qu'on constate, c'est que par exemple, dans d'autres départements, le contrat d'engagement républicain a été un des arguments pour empêcher certaines associations, qu'on dirait militantes, donc féministes, LGBT, de pouvoir exercer sur le territoire. Et là, peut-être pour faire un petit parallèle avec une des associations rennaises, donc le centre LGBTI+, de Rennes, ISKIS, qui vient d'apprendre qu'une de leurs subventions, donc, qui était prévue pour 3 ans...
On en parlait en édito justement de cette émission.
Bah, la préfecture d'Ille-et-Vilaine vient de... Voilà, il y a 40 000 euros qui ne sont pas alloués à l'association. Donc ça montre bien aussi que c'est vrai que ça questionne sur les associations militantes, le projet politique en fait, qu'on a envie de mettre derrière. Et on voit bien qu'une certaine partie des politiques n'ont pas forcément envie que certaines actions soient mises en place sur notre territoire.
Joël Gouron, vous qui représentez plutôt des associations qui travaillent dans les secteurs du médico-social, pour vous, qu'est-ce qu'il manque au niveau des politiques publiques pour que votre action et votre offre soient toujours à la hauteur des besoins que vous nous avez évoqués en début d'émission ?
Le premier constat, lorsqu'on regarde notamment le rôle déterminant des conseils départementaux, c'est de voir qu'on ne peut pas demander à une collectivité plus de financement dès lors que nous faisons le constat que leurs propres ressources diminuent,
sont limitées,
et leurs charges augmentent. Donc ça, c'est une réalité qui dépasse le cadre breton, c'est une réalité nationale. Donc on voit bien qu'on est au bout d'un système et que là aussi, ça ne tient plus. Donc ce qu'on réclame depuis déjà de nombreuses années, c'est une remise à plat des politiques publiques et notamment du financement de l'action sociale. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît important. Je crois que cette prise de conscience, elle est déterminante parce que, les collègues l'ont évoqué, on pourrait dire que la forme du dialogue est maintenue, je dirais, et c'est important de le dire, et elle est souhaitée. En revanche, sur le fond, on voit bien qu'on se heurte à un mur qui devient de plus en plus conséquent, si je puis dire, surtout si on regarde l'actualité et la difficulté à court et moyen terme d'avoir une politique sociale véritablement déterminée et discutée.
Alors, je me permets avec un peu de retard de rebondir sur ce que Éloi a dit. Il a évoqué la question du bénévolat dans des radios comme Radio Laser ou Canal B. On a beaucoup d'invités qui viennent et qui nous parlent de la crise du bénévolat. C'est de plus en plus complexe de recruter. Est-ce que ça aussi, c'est dû peut-être à l'essoufflement du monde associatif actuellement ?
Thierry Abalea, peut-être
oui, allez-y.
Juste rapidement, avant de laisser la parole à Thierry, mais j'ai réagi parce que la question me fait un peu bondir. Ça fait partie de la doxa. Ça fait, oui, mais le secteur associatif, les bénévoles, on n'en trouve plus, etc. Au moment où nous parlons, il y a des milliers, des dizaines de milliers de bénévoles qui s'investissent dans les différents domaines représentés par le secteur associatif et que leur rôle est simplement déterminant. peu valorisé, il est vrai. Mais pour autant, et je reprends l'exemple, et il y en aurait des tas, mais celui des personnes âgées, au-delà de cette politique et de cette loi grand âge qu'on attend depuis des années et qui est régulièrement repoussée, il faut savoir que dans un EHPAD, par exemple, la gouvernance de l'association, elle est tenue par des bénévoles. Un premier élément. Et deuxième élément, pour peut-être simplifier et être synthétique, la dynamique d'animation sociale dans les EHPAD, elle est souvent tenue par des bénévoles. Et le rôle est juste déterminant. Et considérer que le bénévolat est à bout de souffle, c'est effectivement une façon assez insidieuse de remettre en cause le système associatif dont les valeurs, rappelons-les, parce qu'on les a pas énoncées, mais elles sont quand même importantes, c'est la non-lucrativité du secteur, c'est l'accès aux droits pour tous, et c'est la primauté de la personne. Vous voyez ? Pas de rémunération d'actionnaires dans le secteur associatif.
Try Me de Loujé sur le 94 FM. De retour en plateau avec de nombreux invités et invités au féminin également pour parler du mouvement de mobilisation, du mouvement associatif qui aura lieu ce samedi 11 octobre dans toute la France et en Bretagne évidemment. C'est un mouvement historique puisque c'est la première fois, nous ont dit nos invités en début d'émission, que autant d'associations se rejoignent sous le même mot d'ordre pour dire aux autorités et aussi aux citoyens et citoyennes que ça ne tient plus. Il n'y a plus assez de moyens financiers, plus assez de moyens généraux pour que les associations assurent leur offre et parfois même les services publics qu'elles rendent à la société. On a parlé de différentes choses, du dialogue, de la teneur de la relation avec les autorités qui est parfois encore bonne, nous le disaient nos invités. J'aimerais maintenant vous poser une question, Thierry Abaléa, vous qui représentez le mouvement associatif de Bretagne, au sujet un peu d'un paradoxe concernant le secteur associatif qui représente, vous nous le direz, pas mal d'emplois en Bretagne. Et pourtant, en face, on a des autorités qui ne veulent plus investir dans ces associations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les chiffres et en fait ce que ça représente au niveau de la région, aussi en termes d'attractivité territoriale peut-être et de vie tout simplement de nos territoires?
Oui, alors rapidement trois chiffres du coup pour pas l'emploi associatif en Bretagne, c'est plus de 100 000 salariés, 100 000 emplois. À l'échelle nationale, c'est près de 2 millions de salariés associatifs. C'est 14% de l'emploi privé, l'emploi associatif. Et donc c'est un des secteurs d'activité et d'emploi le plus important, bien au-delà en Bretagne que l'agroalimentaire par exemple. Bien supérieur au BTP, bien supérieur au secteur du tourisme. Le monde associatif, c'est ça. Et la réalité de ce secteur d'emploi, c'est que seulement 10% des associations en Bretagne salarient un employé, ont un emploi. 90% des associations ne travaillent qu'avec des bénévoles et n'agissent qu'avec des bénévoles. Donc c'est un des paradoxes, parce que c'est un secteur d'emploi important, structurant pour une région comme la Bretagne. Mais en même temps, ça ne concerne que 10% du nombre des associations. Et juste un point concernant l'emploi, c'est que on l'a entendu dire par un certain nombre de responsables politiques nationaux et dans d'autres régions qu'ici, c'est que c'était pas de vrais emplois, les emplois associatifs, quoi. En plus, c'est très féminin, c'est des temps partiels, c'est précaire, donc c'est pas des vrais emplois, donc c'est quantité négligeable, et donc on peut les supprimer, c'est pas grave. D'autant que celui qui supprime l'emploi, c'est-à-dire celui qui prend la décision de licencier sous contrainte, n'est pas celui qui paye. C'est quand même un paradoxe de transfert de responsabilité. Je décide de ne plus verser la subvention à l'association parce que je suis détenteur d'un mandat politique, mais c'est pas moi qui en assume les conséquences du licenciement que ça va générer. Et juste un mot, c'est que oui, ce sont de vrais emplois, oui, ce sont de vraies personnes, les salariés associatifs, de fait de chair et d'os. Donc c'est des gens qui habitent en Bretagne, qui habitent dans le village ou dans la ville dans laquelle ils pratiquent leur activité professionnelle. C'est des gens qui consomment, et je vous laisse imaginer ce que représentent 2 millions de salariés en termes de contribution au budget de la sécurité sociale et de la protection sociale dans ce pays. C'est loin d'être négligeable, et aujourd'hui on assiste à un vaste plan social complètement à bas bruit, parce que la petite association, petite, alors je devrais pas dire ça, mais l'association qui embauche une personne et qui est obligée de se séparer de son salarié, ou dont le salarié s'en va pour se dire « moi j'ai pas d'avenir là-dedans, donc je vais voir ailleurs », ça se fait dans le plus grand silence, et donc dans une souffrance absolue pour le bénévole employeur, comme pour le salarié qui va essayer d'aller voir ailleurs, alors que toutes les études montrent l'attractivité du secteur associatif chez les jeunes en termes de perspectives d'emploi.
On l'entend dans ce que vous nous dites, Thierry Abalaire, un petit peu le dédain et le mépris de certaines responsables politiques. Qu'est-ce que vous, responsables, représentants d'associations ici aujourd'hui autour de la table, vous avez comme garde-fou, comme moyen de pression, si vous en avez, auprès des autorités aujourd'hui? Quelles sont un peu vos dernières cartes à jouer? Peut-être Benoît Bronic?
Les dernières cartes à jouer, malheureusement, on n'en a pas beaucoup, à part notre engagement. C'est notre engagement, c'est ça notre force, hein, aujourd'hui. C'est l'engagement de nos bénévoles, de nos citoyens qui se mobilisent dans l'action associative. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la seule carte qu'on a, et en même temps, c'est la meilleure et c'est la plus forte. Donc, en effet, aujourd'hui, le moyen de pression, c'est de nous faire entendre, c'est d'appeler les adhérents de nos associations, mais c'est aussi ceux qui bénéficient des services de nos associations, ceux qui vont faire une sortie en nature, parce que l'espace dans lequel ils vont se promener, c'est un espace protégé qui a été avec un circuit pédagogique qui explique pourquoi la nature. C'est aussi ça. Donc aujourd'hui, voilà, notre force vive, c'est notre seule carte à jouer, et c'est la meilleure. Et j'espère que, en tout cas, j'ai à cœur que ça puisse être la meilleure des cartes. Et on compte sur celle-là pour qu'elle se mobilise le 11 octobre, pour bien préciser que ça ne tient plus.
Joël Goron, sur ce sujet.
Oui, pour compléter les propos de mon collègue, j'ai envie de dire que, sans dire qu'effectivement c'était mieux avant, rappelons-nous quand même l'esprit pionnier qui a amené à la création de nos associations. Nos associations sont parties d'une initiative citoyenne, c'est le départ. c'est pas un conte, c'est pas une légende, c'est une réalité. Il nous faut peut-être retrouver cette dimension citoyenne que nous n'avons jamais laissé tomber du côté associatif, mais qui est peut-être mal perçue ou insuffisamment perçue par nos financeurs qui l'ont peut-être oublié, mal perçue par le grand public qui croit nous connaître et qui ne nous connaît pas. Donc on voit bien qu'on a besoin de faire de la pédagogie pour expliquer ce que nous sommes et les valeurs que nous animons. Je pense que c'est une mobilisation citoyenne ou des mobilisations citoyennes comme celle du 11 octobre qui peuvent montrer la voie. Et je rajoute un élément qui a été souvent évoqué mais qui me paraît primordial parce que c'est une première, cette capacité en Bretagne des acteurs associatifs à se mobiliser et qui effectivement historiquement, je ne vais pas jouer l'ancien dans cette tribune, mais n'a pas de précédent. Et c'est important de le rappeler et surtout c'est important pour nous de continuer au-delà de ce qui va se passer le 11 octobre.
Il y a un sujet qui sous-tend, j'ai l'impression, votre intervention, Joël Goron, c'est le sujet des libertés associatives. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu plus en détail ce que c'est, parce que moi personnellement, par exemple, je ne sais pas précisément ce dont on veut parler, mais il me semble que c'est un point important de votre tribune. Alors qu'est-ce que c'est que les libertés associatives? À quoi cela fait référence? Et surtout, pourquoi c'est un pilier fondamental de la vie aussi sociétale française aujourd'hui? Sur ce sujet, peut-être Thierry Abella ou Daniel Delaveau? Allons-y pour Thierry, pour commencer.
Allez, pour commencer, juste peut-être rappeler la loi 1901, toute la loi, rien que la loi. La loi de 1901, c'est une grande loi de liberté. Et d'ailleurs, c'est sûrement parce que c'est une grande loi de liberté que c'est une loi qui a une telle longévité. Depuis 1901, ça fait 125 ans quoi que cette affaire-là, ça dure. Et c'est quoi cette loi? Alors c'est ça aussi, c'est sûrement une leçon à donner à nos législateurs actuels. C'est une loi qui se veut la plus simple possible. Et une loi qui se veut sacrer la liberté, qui est que une république, une nation et un pays, ça ne peut pas se construire sans le citoyen. Que le citoyen a sa part de responsabilité à prendre dans la construction d'une société, d'une république et d'une démocratie. Et donc, la loi de 1901 dit, le citoyen a le droit de s'associer avec qui bon lui semble, et pour s'associer, il faut être au moins deux. Pour faire ce que bon lui semble et au profit d'une cause qui lui importe, et le législateur et le pouvoir administratif n'ont rien à dire à cela. C'est une liberté totale du citoyen, et faisant ça, le citoyen contribue à fortifier et à muscler notre République et notre démocratie qui, en 1901, était toute jeune, la Troisième République, à ce moment-là, et qu'il fallait l'asseoir. Pour nos auditeurs, se rappeler toujours que 1901, c'est la même époque que les lois fondamentales sur les libertés syndicales, sur les libertés de la presse, sur la liberté politique et les partis politiques, et la liberté associative en fait partie.
La liberté associative en fait partie, et donc on comprend que ce sont un peu les fondements des contre-pouvoirs qui existent aujourd'hui en France. Daniel Delaveau, quelques mots là-dessus?
Oui, pour compléter ce que dit fort bien Thierry, l'originalité de nos associations, c'est qu'elles vivent à partir d'un projet associatif. Et dans le dialogue nécessaire avec les pouvoirs publics, il faut que l'on ait un véritable climat de confiance et non pas, comme on le constate malheureusement trop souvent, un climat de défiance. Et c'est très important. On l'a évoqué aussi, nous ne sommes pas, et nos associations, je pense dans chacun de nos secteurs, mais c'est vrai encore plus peut-être dans le secteur social et de la précarité, nous ne sommes pas des prestataires de services que l'on met en concurrence avec soit avec d'autres associations, soit avec le secteur privé et marchand. Nous avons des projets associatifs appuyés sur les valeurs que Joël rappelait tout à l'heure, et nous voulons que ceci soit respecté. Nous voulons des contrats, hein, quand l'État ou d'autres, les collectivités, nous voulons bâtir des contrats. Et un contrat, il est fondé sur la confiance et il n'est pas fondé sur la méfiance ou sur un rapport qui est uniquement un rapport de prestataire.
On entend ce que vous nous dites aujourd'hui, et peut-être pour avant de revenir et de peut-être conclure sur ce sujet très vaste, j'aimerais entendre Gaëlle Cordier et Éloi Cordier, pardon, excusez-moi, et Bluen Olnet sur le sujet de, pour faire comprendre à nos auditeurs et auditrices ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui potentiellement dans les mois à venir pourrait disparaître de vos offres que vous offrez aux adhérents, mais aussi au grand public, au CRAJEP, dans les associations qui sont membres du CRAJEP. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui qu'est-ce qui est menacé de disparaître du fait de cette situation catastrophique pour les associations?
Bah, énormément de choses. Déjà, le fait de moins pouvoir faire partir des enfants, des jeunes en vacances, des centres sociaux qui vont fermer, des maisons de quartier qui ne pourront plus proposer une offre artistique, culturelle. Enfin, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train de fragiliser tout un projet de société et toute la vie d'habitants ou d'habitantes, en fait. Et puis, c'est assez alarmant parce qu'au-delà de ça, imaginez par exemple dans le cas de l'éducation populaire, la fragilisation permanente et la disparition de l'éducation populaire, c'est imaginer une société où l'accès à la culture, par exemple au sport, au départ en vacances ne serait exclusivement que des privilèges, les jeunesses de nos territoires qui n'auraient plus d'espace pour faire entendre leur voix, qui n'auraient plus d'espace pour éveiller leur esprit critique, et aussi dans une logique d'apprentissage également à la citoyenneté, et ça serait également arrêter de se préoccuper de la santé mentale des jeunes, et donc rester impuissant également face à la montée des discours haineux et discriminatoires. Donc il y a un vrai tournant, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre société demain si on enlève toutes ces structures de proximité et l'accès aux services des habitants dans leur commune, dans leur ville.
À côté de chez eux.
C'est ça.
Pour le planning familial, au-delà, on l'a entendu, des suppressions de postes, qu'est-ce que c'est concrètement en termes d'offres pour les adhérents et le grand public qui pourraient disparaître ?
Bah c'est, enfin je rejoins ce que disait Éloi, c'est quel projet de société on a envie, et donc pour les personnes qu'on accompagne, ça veut dire qu'on fermera certains jours, qu'on arrêtera certaines permanences, donc ça veut dire que l'offre qu'on propose sera forcément diminuée, et donc on sait les conséquences pour ces publics. C'est
très concrètement où... c'est des femmes qui ne sont plus accompagnées, ouais, alors qu'elles ont besoin d'un accompagnement pour une IVG, par exemple, une interruption volontaire de grossesse.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont plus réalisées dans certains lieux. Ça peut être des jours de fermeture. Nous, on est ouvert en accueil toute la journée pour parler de contraception, pour parler de violence, pour parler d'infections sexuellement transmissibles. Alors qu'on voit en face qu'il y a, par exemple, une augmentation des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. Donc, on voit bien aussi les conséquences que ça pourrait avoir, notamment pour la jeunesse, si on fermait certains de nos dispositifs.
Daniel Delavaux, sur ce sujet, vous avez aussi un ou deux exemples concrets de choses qui pourraient disparaître dans les mois à venir, des services, pas des services, mais en tout cas une offre, oui, qui est proposée aujourd'hui au grand public de par vos associations ?
Malheureusement, c'est déjà le cas. Je pense par exemple au secteur de l'insertion par l'activité économique. Un certain nombre de chantiers écoles ont fermé et ont disparu avec les pertes d'emplois, etc. Mais c'est surtout un service en direction des personnes qui ont besoin de cet accompagnement d'insertion vers le travail qui est en cause. Et je prends cet exemple, mais on peut le multiplier également dans les permanences, dans les horaires d'ouverture de l'hébergement d'urgence, etc. Donc c'est déjà une réalité, la diminution du niveau de service qui est proposé et les alors que notre première fonction, c'est d'accompagner et d'être auprès des personnes.
D'être présent.
Si je vous écoute et si j'écoute les témoignages qu'on a eus avant, est-ce que je synthétise correctement en disant que c'est d'autant plus important de vous rejoindre ce 11 octobre que le monde associatif, il est aussi là pour pallier à certaines carences de l'exécutif ?
Sur cette question un peu épineuse, Daniel Delavaux.
Les pouvoirs, nous, notre exigence, c'est qu'il y ait des politiques publiques dans le domaine de la vie sociale, de la vie associative, de la vie culturelle, de la vie citoyenne, qui soient à la hauteur des besoins et à la hauteur des enjeux que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est essentiel.
Et justement, parlons un petit peu des perspectives. Si on prend un peu de hauteur, récapitulons ce qui va se passer. La mobilisation, c'est ce samedi 11 octobre partout en France, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Jeudi, vous avez donné une conférence de presse à Rennes. La suite, c'est quoi ? Est-ce que vous avez déjà des rendez-vous prévus avec certaines autorités ?
Ah oui, alors d'abord peut-être pour revenir sur le 11 octobre, un peu de cible. Hein. L'idée du 11 octobre, c'est un appel aux citoyens. Un appel à la mobilisation du citoyen pour ceux qui sont d'accord avec ce qu'on s'est dit là ce matin, puissent aussi venir témoigner de l'importance qu'ils accordent à leur association au plus près du terrain. Et pourquoi on fait ça ? Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment de ne pas être suffisamment entendu, nous, par les pouvoirs publics. Donc on prend le citoyen à témoin. Manifestez-vous. L'autre message, c'est en direction des décideurs publics, et ça a été dit, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est globalement de dire la suspicion, le mépris, la condescendance, le paternalisme n'est pas le type de rapport qu'on veut entretenir avec vous, pouvoir public, et nous, associations. Voilà les deux messages clés pour le 11 octobre. Alors le 11 octobre, c'est pas ni une fin, ni un début, c'est une étape dans une mobilisation, et dans une mobilisation intersectorielle. Vont suivre dans les semaines et les mois qui vont venir, en Bretagne y compris, un certain nombre d'autres mobilisations de mes camarades présents ici autour de la table, qui ont déjà des rendez-vous annoncés en Bretagne pour continuer ce chemin d'interpellation qu'on a décidé d'entreprendre. Alors oui, il y a un certain nombre de... D'abord, il y a un certain nombre d'élus locaux qui nous ont témoigné, y compris certains publiquement, de leur soutien à cette mobilisation-là, parce que ça a été dit aussi, les collectivités locales aujourd'hui sont elles aussi dans une situation financière et budgétaire ô combien compliquée. Donc elles payent aussi les frais de choix dont elles ne sont pas forcément responsables, et je ne vais pas faire l'élu local à la place de l'élu local, mais la dette publique, c'est d'abord une dette de l'État et non pas une dette des collectivités. Donc on est dans le même bateau de ce point de vue-là.
C'est une main tendue vers les autorités qui nous écoutent. En tout cas, on entend que le dialogue existe encore, et voilà, un petit brin d'optimisme pour finir ce rendez-vous radio. Vous retrouverez certaines associations à Rennes samedi matin au marché d'Élysée pour un rassemblement et un échange sur la situation des associations et donc la mobilisation spéciale. Donc ce samedi 11 octobre, avec un moment fort à 11h10 pour tirer collectivement la sonnette d'alarme. Rendez-vous également à l'Antipode à Rennes à 14h30 pour un café-débat sur notre rapport collectif aux associations. Vous y retrouverez sans doute certains éléments qu'on a évoqués pendant l'interview du jour. Cette émission spéciale touche à sa fin. Un grand merci à nos invités. Il y avait avec nous Thierry Abaléa, président du mouvement associatif de Bretagne, Joël Goron, président de l'URIOPS, Benoît Bronick, coordinateur de France Nature Environnement, Éloi Cordier, coordinateur du CRAGEP, Bluen Olnet, coprésidente du planning familial d'Ille-et-Vilaine, et Daniel Delaveau, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Cette émission a été réalisée par Canal B et Radio Laser, et pour la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Renseignez-vous sur ça-ne-tient-plus.org pour retrouver toutes les actions organisées par les associations partout en France, en Bretagne et en Ille-et-Vilaine ce samedi 11 octobre, et allez à leur rencontre. À très bientôt sur Canal B.